Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Auditeurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment promouvoir les lois et règlements en faveur de la parité? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service avec Madame Annie Maudy, présidente de l'ONG Afiamama. Madame Annie Maudy, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, Okapi Service, qui s'intéresse aux lois et règlements en faveur de la parité. Vous voulez participer à cette émission? Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Polydor Bansunga, la mise en onde de Tati Mapoukou, réalise cette émission coordonnée par Marcel Ngombo-Mbalakeba. Jody Daniel Kachama au micro sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Bienvenue à tous. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Les Nations Unies célèbrent ses 75 ans d'existence. 75 ans d'efforts inlassables pour la réalisation d'un monde meilleur. En 2020, quelle évaluation les peuples du monde peuvent faire pour l'idéal de l'ONU? Quelle est la contribution des acteurs politiques, économiques et culturels congolais à la construction de cette œuvre humaine? La Radio de la Paix vous propose des émissions spéciales à l'occasion des 75 ans des Nations Unies. Retrouvez-nous sur nos antennes, ensemble avec la famille de l'ONU.
Bienvenue encore une fois dans cette émission Okapi Service. Comment promouvoir les lois et règlements en faveur de la parité? En RDC, certaines lois constituent un frein au développement, à l'épanouissement et à la représentativité des femmes dans la sphère des prises des décisions. Pour les outiller à mener le plaidoyer en faveur de la parité, certains honorables députés ont été renforcés en capacité, en logistique et technique de prise de parole en public. Un projet exécuté par l'ASBEL Afiamama en collaboration avec l'ambassade de France. Comment promouvoir les lois et règlements en faveur de la parité? On en parle aujourd'hui dans cette émission. Nous commençons la partie avec Madame Annie Maudy, présidente de l'ONG Afiamama. Madame Annie, encore une fois, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody Kachama.
Nous parlons aujourd'hui de comment promouvoir les lois et règlements en faveur de la parité. Nous avons en ligne Madame Annie Maudy, présidente de l'ONG Afiamama. Madame Annie, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody Kachama.
La première question est de savoir, c'est quoi la parité?
La parité, c'est une représentation équitable des différents groupes, hommes, femmes, ou vieux et jeunes, dans des institutions à tous les niveaux.
Voilà. Et quel état des lieux vous faites de la parité aujourd'hui en République démocratique du Congo?
Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, l'état des lieux nous dirons plutôt que sur le plan normatif, il est très progressif, puisque nous avons le principe de la parité qui est consacré dans l'article 14 de la Constitution même, ce qui n'est pas le cas dans plusieurs pays. Nous avons une loi organique portant modalité de mise en œuvre des droits de la femme et de la parité, ce qui est une innovation parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas encore une loi organique sur la parité. Cependant, malgré la Constitution et cette loi organique, l'application des lois ou des textes progressistes progressistes qui garantissent les droits de la représentativité de tous de manière équitable ne sont pas appliqués, ne sont pas respectés.
Bien, pouvez-vous nous donner par exemple des exemples concrets des avancées déjà enregistrées dans notre pays?
J'ai cité deux tantôt, qui est les principes de la parité dans la Constitution. J'ai cité la loi portant modalité de mise en œuvre du droit de la femme et de la parité. Je citerai ici l'amendement des codes de la famille qui a, par exemple, redonné la capacité juridique à des femmes mariées qui n'en avaient pas. Je citerai notre code du travail qui a supprimé l'autorisation maritale pour qu'une femme avec les compétences puisse travailler sans nécessairement avoir besoin de l'autorisation de son mari. Je citerai ici, par exemple, la loi cadre sur la santé par rapport à l'accès des femmes aux contraceptifs ou à la planification familiale. Je citerai ici la publication du protocole de Maputo au journal officiel, mais aussi le travail qui est en train d'avoir lieu entre les conseils, l'ordre des médecins et les conseils supérieurs de la magistrature pour permettre à ce que les femmes qui peuvent être victimes de violences sexuelles ou les mineurs avec des grossesses non désirées arrivent à accéder à l'avortement sécurisé. Ça, ce sont des avancées pour ne citer que ces exemples-là. Et maintenant, l'application de ces avancées pose problème. Dans la loi portant modalité de mise en œuvre des droits de la femme et de la parité, il est clairement dit que l'État prend des dispositions pour que les femmes soient représentées de manière équitable. Mais cependant, nous voyons des arrêtés ministériels ou encore des ordonnances jusqu'au niveau du chef de l'État qui sont signées en violation de l'article 14 de la Constitution, mais aussi de la loi organique portant modalité de mise en œuvre des droits de la femme et de la parité, puisqu'il n'y a pas une bonne représentativité des femmes dans ces décisions prises par les autorités qui sont, elles, censées appliquer ces lois. Donc, de par ces exemples-là, vous verrez que nous avons encore un long chemin à parcourir, tout en reconnaissant les avancées que la RDC a enregistrées.
Combien de femmes aujourd'hui on retrouve dans les instances des prises et décisions, prenons au Parlement, au gouvernement et dans les entreprises publiques et ailleurs?
Au gouvernement, nous sommes à moins de 20%, c'est 17-18% au gouvernement. Au niveau du Parlement, nous n'avons même pas franchi les 15%, nous sommes à 11% plus ou moins. Et au niveau des entreprises publiques, malgré les dernières nominations, on est toujours en dessous de 15%. Et comme c'est un processus qui continue, nous profitons de cette émission pour appeler aussi au respect de la Constitution et au respect des lois en vigueur que le chef de l'État ou les ministres, lorsqu'ils vont signer les arrêtés ministériels ou les ordonnances présidentielles, qu'ils les fassent dans le respect de la Constitution, puisque la Constitution, on ne peut pas la respecter de manière sélective. L'article 14 fait bel et bien partie de cette Constitution qui régit les pays. Il doit être respecté et c'est le chef de l'État qui va donner l'exemple et qui va lancer l'élan.
Bien. Quels sont les obstacles aujourd'hui à la parité en République démocratique du Congo?
Les obstacles, c'est d'abord l'ignorance de cette évolution du cadre légal, je dirais, parce que nous avons des acteurs du système judiciaire qui, eux, la loi n'étant pas vulgarisée, il y en a qui disent encore, qui donnent encore des décisions aujourd'hui sur base de leurs croyances ou alors sur base des dispositifs qui ont déjà été abrogés par les nouvelles lois. Et il y a aussi l'ignorance de la population et des bénéficiaires principalement de cette évolution-là, puisque moi j'ai dit toujours un droit se revendique. Et pour que ce droit se revendique, il faut bien que les bénéficiaires sachent et comprennent qu'elle a le droit pour arriver à les revendiquer. Et donc l'ignorance de la population et des bénéficiaires de ces droits-là font que ces droits ne soient pas assez et revendiquer. Autre chose aussi, le fait qu'on a tendance à faire croire à la population que connaître ses droits, ça veut dire être instruit. C'est deux choses différentes. On peut connaître ses droits dans sa langue maternelle et on doit les connaître dans sa langue maternelle pour les revendiquer. Mais il y a aussi parfois mauvaise foi dans les chefs de certaines autorités qui, malgré le fait qu'ils connaissent ce que la loi dit, c'est plutôt les pesanteurs socioculturels qui informent leurs décisions. Mais il y a autre chose, c'est que nous avons un Parlement qui ne fait pas souvent les contrôles parlementaires en lien avec l'application des lois en faveur de la femme. On voit les ministres être interpellés parce que bon, il y a eu insécurité, oui, mais on ne voit pas un ministre être interpellé parce qu'il a signé une ordonnance qui est en contradiction avec la loi portant modalité des mises en œuvre des droits de la femme. Alors que cette catégorie représente quand même une majorité de la population. Donc, pour ne citer que ces défis-là, c'est au fait ça qui nous a amené à nous retourner vers les parlementaires comme cible, parce que si eux, ils comprennent, si eux, ils adhèrent, ils vont faire le contrôle parlementaire qui va exercer une pression sur le gouvernement afin que le gouvernement, à tous les niveaux, central et des gouvernements provinciaux, arrive à faire, à appliquer les lois et textes qui sont en vigueur.
Bien. Vous avez initié dernièrement un projet de renforcement en capacité, de renforcement des capacités en logistique et technique de prise de parole en public à l'intention des honorables députés. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Oui, nous avons initié ce projet-là qui a été appuyé par l'ambassade de France à République démocratique du Congo, justement parce que nous nous sommes dit que si le gouvernement n'arrive pas à faire appliquer les lois en faveur des droits de la femme, les seuls pouvoirs qui a l'autorité d'interpeller et de mener les contrôles, c'est le Parlement. Et donc, il était important pour nous que les parlementaires arrivent à comprendre c'est la logistique pour leur permettre de mieux analyser les projets de loi qui leur sont déposés, puisque parfois, nous avons encore de lois en vigueur, malheureusement, qui n'ont pas eu la lecture ou l'analyse de genre, qui n'ont pas assez intégré la dimension des droits spécifiques des femmes. Alors, ce projet-là, ça nous a permis de former 50 parlementaires en logistique, en technique de prise de parole en public, mais aussi en plaidoyer, puisque 50 dans l'hémicycle qui compte 500 députés, c'est peu, mais c'est déjà une semence qui va permettre à ce que ces députés arrivent à interpeller les lois qui ne prennent pas en compte les droits de la femme, qu'ils arrivent à analyser les projets qui sont déposés en lien avec les principes de la parité, qu'ils arrivent aussi à prendre parole et à interpeller les membres du gouvernement lorsque le droit spécifique des femmes ne sont pas observés.
Bien. Combien de lois avez-vous identifiées qui sont contre l'avancement ou l'épanouissement de la femme?
Nous avons identifié plusieurs dispositions dans plusieurs lois. Je crois qu'on a identifié entre 6 et 7 lois. Mais nous avons aussi travaillé avec des personnes ou des groupes qui initiaient de nouvelles lois, à l'exemple des lois pour la protection des personnes handicapées, qui est une nouvelle proposition de loi. Nous avons travaillé avec des groupes et les ministères de tutelle pour que les besoins spécifiques des femmes soient pris en compte, par exemple par rapport à leur droit à la santé sexuelle et reproductive, par rapport à l'accès au crédit pour leur autonomisation économique, par rapport à l'accès aux services. Et nous avons travaillé avec un des députés formés qui a déposé une proposition de loi sur les personnes, la protection des personnes de troisième âge. Ça, c'est aussi une nouvelle loi. Donc, nous avons identifié plusieurs dispositifs dans les lois existantes. La loi sur le financement des partis politiques, par exemple, c'est une loi qui n'a pas la sensibilité genre. La loi électorale, dans son article 13, c'est une loi qui ne permet pas, qui contredit au fait ce que l'article 14 de la Constitution et la loi sur la parité dit lorsqu'il s'agit d'aligner les femmes sur les listes électorales. Donc, c'est des dispositifs comme ça que nous avons identifiés. Dans le code pénal, il y a plusieurs dispositifs qui sont redondants maintenant, mais qui sont en vigueur. Je parlerai, par exemple, de l'article qui condamne ou qui criminalise l'utilisation des contraceptifs, qui est en contradiction avec le fait que nous avons tout un programme sur la santé de la reproduction. Donc, c'est ces incohérences, ces insuffisances et ces gaps-là que nous avons identifiés et nous proposons tout un paquet de lois avec des dispositions amendées et que nous espérons que le Parlement et les députés formés pourront porter pour arriver à harmoniser notre cadre légal en lien avec le droit de la femme.
Bien, comment promouvoir les lois et règlements en faveur de la parité? On en parle aujourd'hui avec Madame Annie Maudy, présidente de l'ONG Afia Mama. Vous voulez participer à cette émission? Eh bien, écrivez-nous à service@radiookapi.net et postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service.
À l'occasion des 75 ans des Nations Unies, retrouvez sur les antennes de Radio Okapi l'histoire de l'engagement de la République démocratique du Congo dans le système onusien. L'accompagnement de l'Organisation mondiale dans le processus de développement et de stabilisation de l'RDC. Ensemble avec la famille de l'ONU.
Bien, nous avons un auditeur en ligne depuis la ville de Mbandaka, Kisimba. Bonjour.
Bonjour, Radio Okapi. Bonjour à tous les auditeurs.
Quelle est votre préoccupation par rapport au sujet du jour?
Oui, à mon avis, je demanderais seulement aux autorités, au gouvernement, de revoir la Constitution. Parce que aujourd'hui, la femme a déjà la capacité. Si nous regardons bien aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont intelligentes plus que les hommes. Même à l'Assemblée, nous avons des exemples, comme la présidente de l'Assemblée, qu'elle est en train de faire. C'est un exemple vraiment à montrer aux gens que la femme aussi a la capacité de diriger un pays, de faire des grandes choses. Je demanderai au gouvernement de revoir d'abord la Constitution pour permettre aux femmes de revoir leurs valeurs.
Bien, merci Kisimba de Mbandaka. Annie Maudy.
Oui.
Vous avez suivi ce que Kisimba vient de nous dire, un commentaire là-dessus?
J'ai suivi M. Kisimba, mais je pense que la Constitution n'a pas besoin d'être révisée, M. Kisimba, parce que la Constitution a garanti justement de l'article 12 à l'article 14 cette protection de droit de la femme à participer de manière égalitaire. Et comme je disais tantôt, nous avons des lois qui ont été amendées. Le Code du travail a redonné la capacité juridique. Ce que les gouvernements doivent faire, ce que moi je suggère, c'est plutôt de vulgariser et surtout d'appliquer ces lois qui sont en vigueur et de les respecter. Et en même temps, puisque nous parlons ce jour-ci de l'état de droit qui est tout simplement un état où les textes sont respectés et appliqués, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une politique quelconque, c'est tout simplement le respect et l'application des textes en vigueur et que la justice, c'est une actrice principale lorsque cet état de droit n'est pas observé. Ça veut dire que lorsque les textes ne sont pas appliqués, la justice doit interpeller les personnes. C'est ça qui va arrêter les cycles de non-respect. C'est ça qui va répondre au problème de l'impunité qui fait en sorte que nous ne puissions pas sortir des spirales de non-respect des droits de la femme, de la sous-représentation des femmes dans les institutions tant publiques que privées.
Bien, nous avons un autre auditeur, Maître Ali, depuis Kalemi. Bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Joaïd, c'est Ali Mouchaba, Joseph, depuis Kalemi.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, merci beaucoup, Monsieur Joaïd. Je voulais tout simplement dire que la promotion de loi en faveur de la parité importe peu, mais ce qui importe beaucoup plus, c'est l'applicabilité stricte et en conformité avec la loi. Ceci voudrait signifier quoi? Ce qui doit être traité et travaillé beaucoup plus, c'est la psychologie de ceux qui animent les lois, les animateurs même de la justice, qui sont le juge, les magistrats des cieux. Lorsque ceux-ci appliquent mal, ne tiennent pas compte de la rigueur, ne tiennent pas compte de la teneur de la loi, tout ce que nous dirons par rapport à la promotion sera une façon de plaider dans la choucroute, c'est une façon d'effectuer un travail en vain. D'où nous devons faire en sorte que les animateurs de la justice appliquent la loi en conformité tout en tenant compte de ceux qui disent la loi et n'ont pas appliqué la loi comme bon leur semble sans toutefois tenir compte de la régularité. Donc c'est ce que je voulais simplement dire. Donc la psychologie des animateurs doit être beaucoup plus travaillée tout en reconnaissant que la parité, c'est un principe sacro-saint pour que nous puissions parler d'un état de droit. On ne peut guère parler d'un état de droit lorsque la parité fait défaut, messieurs les journalistes.
Bien, merci Maître Ali depuis Kalemi. Comment promouvoir les lois et règlements en faveur de la parité? Tout à l'heure, nous allons accueillir l'honorable Juvenal Mounobo, député national, et ainsi que l'honorable Dédé Moupassa. Je reviens à vous, Madame Annie. Vous avez suivi la réaction de Maître Ali. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces sujets?
Moi, je suis parfaitement d'accord avec Maître Ali de Kalemi. Il vient juste de rejoindre ce que je disais tantôt, dont l'application de textes, ça reste le plus grand défi. Et il a touché un point très capital qui est justement la psychologie de ceux qui doivent appliquer ces textes-là. Et ça, c'est de la responsabilité de l'État de s'assurer qu'il recycle les acteurs, les nouvelles lois ou les nouveaux textes arrive jusque chez les acteurs dans les entités décentralisées pour que justement que et ils puissent à leur tour les appliquer. Donc je suis d'accord avec ces propos.
Bien. Alors le projet de renforcement des capacités des honorables députés a duré combien de temps aujourd'hui? Quels sont les résultats obtenus?
Les projets à durer, nous sommes à notre 10e mois. Les résultats, puisque nous avons formé 50 députés, nous avons formé aussi les professionnels des médias. Nous avons été avec le mouvement féminin, l'exemple du mouvement Rien sans la femme, parce qu'il s'agit d'un processus qui doit continuer et qu'après, il faut que les gens se l'approprient. L'autre résultat, c'est que l'honorable Dédé, qui vous aurez tout à l'heure, et parmi les députés formés, il a pu proposer un projet de loi comme un acquis de cette formation. Nous avons l'honorable Christelle Wanga qui est à la tête d'une commission. Nous avons des exemples de plusieurs députés. L'honorable Patricien Seyaké est aussi formé et proposé pour les élections, pour les remplacements des premiers vice-présidents. Pour dire que les députés ont été capacités, l'honorable Juvenal aussi, et nous voyons que ces députés formés sont à mesure de prendre parole, ils font la différence au Parlement, ce qui nous laisse dire que si on investit bien dans les représentants du peuple, on peut arriver à avoir un Parlement à mesure de tenir le gouvernement responsable et que les textes soient mieux appliqués.
Bien, nous avons en ligne l'honorable Juvenal Mounobo, député national. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Okapi Service. Nous parlons aujourd'hui de comment promouvoir les lois et règlements en faveur de la parité. Nous savons que dernièrement, vous avez été renforcé en capacité en logistique et technique de prise de parole, un projet de l'ONG Afia Mama en collaboration avec l'ambassade de France. Alors, à l'issue de cette formation, quelles sont les retombées de cette formation que vous avez eue sur la parité?
Oui, il faut d'abord expliquer la démarche, parce que la question de la parité ou la question du genre, les réponses ne sont pas totales, je vais dire, à partir de la Constitution. C'est vrai, il y a la Constitution qui pose les principes, mais ça ne suffit pas, la Constitution. Il y a la loi de mise en œuvre de la parité, mais il faut aussi voir dans tout l'arsenal législatif qui existe, quelles sont les insuffisances. Et c'est ça le mérite d'ailleurs d'Afia Mama, d'avoir réuni certains députés intéressés avec un esprit volontariste pour essayer de voir à travers la législation quelles sont les faiblesses et comment en proposer des mises à jour des lois. Et donc, nous avons reçu comme formation, la formation, comme vous venez de le dire, sur la logistique, la prise de la parole en public et les plaidoyers. Je me rappelle que le choix des formateurs était un bon choix. On était avec le prof Kumbo Kingimbi, avec Madame Léonie Candolo. Et donc, on a reçu cette formation et ça a eu un impact. Même si personnellement, je n'ai pas eu à initier une loi modificative d'une loi qui existe ou une loi nouvelle, mais au moins, je suis intervenu dans les initiatives existantes. Et donc, c'est une bonne chose. La dernière initiative en date, il y a une proposition de loi, par exemple, sur les personnes de troisième âge. La dimension genre sera bel et bien prise en compte. C'est vrai, les retombées de manière quantitative, ce n'est peut-être pas le moment d'énumérer, mais sur le plan qualitatif, il faut noter que nos capacités ont été renforcées. C'est pas toujours évident que tous les députés ont des capacités renforcées dès la prise, dès l'entrée en fonction, quoi, dès le début de la législature.
Bien, honorable Juvénal, dites-nous par rapport à la loi que vous venez de citer sur les personnes de troisième âge, que prévoit cette loi exacte, ce projet de loi?
Bon, ça prévoit un certain nombre de droits. Hein. Vous savez, ça puise aussi des racines dans nos cultures, quoi. Ces personnes ne peuvent pas être abandonnées, ils ont besoin de l'assistance, connaissaient un peu la solidarité. Africaine.
Je reviens à vous, Madame Annie Maudit, présidente de l'ONG Afia Mama. Parlez-nous un peu de ce que prévoit cette loi sur les personnes de troisième âge et surtout par rapport à la dimension du genre.
Par rapport à la dimension du genre, au fait, je dois rappeler une chose, que la loi a été proposée de bonne foi par l'honorable Dédé Mopassa, mais après la formation, le projet de loi, et pendant que nous parlons là, est en train de subir une relecture genre, une analyse genre qui va maintenant ressortir des propositions concrètes en termes de la prise en compte des besoins spécifiques des femmes. Mais en gros, c'est un projet de loi qui protège un peu nos vieux dans notre contexte socio, nos vieillards dans notre contexte socio-culturel. Et puis avec l'augmentation de la justice populaire, et nous avons vu les accusations à l'encontre des personnes de troisième âge, des sorcelleries ou d'autres types d'accusations, cette loi fait en sorte que l'État prenne en charge ces personnes. Il y a aussi un aspect, par exemple, des impôts. Il y a des impôts que certaines personnes à leur troisième âge sont plus censées payer. Les impôts sur les titres fonciers, par exemple, il y a un certain âge que ces personnes ne peuvent plus, mais ils ne les savent pas, ils ne sont pas informés, ce n'est pas appliqué. Et maintenant, quel est l'impact sur les femmes qui, elles, n'ont pas souvent ce genre de propriété? Quelle est cette garantie, quelle est cette protection pour ces femmes-là? C'est l'analyse genre que le projet de loi est en train de subir en ce moment. Et d'ici avant la réouverture de la session parlementaire prochaine, la loi sera complètement sensible au genre puisqu'il aura subi cette analyse genre.
Bien, parlons de la loi sur le financement des partis politiques. Comment intégrer, quelle est la dimension genre qui doit être intégrée?
Encore une fois, comme l'honorable Juvénal venait de les mentionner, certaines lois organiques, on ne peut pas les analyser de manière verticale ou toute seule. La loi portant financement des partis politiques est liée à la loi électorale, puisque nous avons observé que pour la participation de femmes, plusieurs femmes qui ont la volonté ou la capacité d'agir dans la politique, parfois n'ont pas de pouvoir économique. Alors, c'est cette dimension qui nous a ramené dans la loi portant financement des partis politiques, qui n'est pas appliquée aussi. Puisque si les partis politiques sont financés par l'État, et si ce financement vient avec des conditions par rapport au respect de l'article 13 de la loi électorale, qui doit aussi être amendé, c'est ce que l'honorable Juvenal essayait de mentionner tout à l'heure, pour qu'une dimension genre qui peut nous amener vers l'atteinte de la parité devienne une réalité, nous avons besoin de toucher parfois 3 ou 4 lois et créer cette harmonie. Ce que nous recherchons à la fin, c'est que les femmes soient alignées sur les listes de manière paritaire, et pour cela, il faut que les partis politiques soient financés, pour que ce ne soit pas l'argent d'un individu qui est à la tête d'un parti politique qui fasse fonctionner les partis politiques, parce qu'en ce moment-là, il n'y a pas de contraintes sur ces autorités des partis politiques.
Bien, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a au moins 7 lois dans lesquelles qui méritent d'être modifiées afin d'y intégrer la dimension genre. Pouvez-vous les citer?
J'ai déjà parlé de la loi électorale, j'ai parlé de notre code pénal, j'ai parlé de la loi portant financement des partis politiques. Il y a le code de la famille aussi, la loi cadre sur la santé, je crois que je suis à 5, et la loi foncière, je crois que si ma mémoire ne me trahit pas, parce que je n'ai pas de document devant moi, oui. ça sera aussi le code du travail.
Par exemple, dans le code du travail, qu'est-ce qui doit être modifié pour intégrer la dimension genre?
En fait, tout de suite, je vais devoir vérifier la disposition pratique par rapport à ça.
D'accord. Il n'y a pas de souci. On va accueillir de nouveau l'honorable Juvenal Munobo. Honorable, vous êtes là?
Oui, je suis là. En fait, d'emblée, comme ça, c'est difficile de c'est un travail en continu, il faut le dire. Hein. Oui. Ce qui est important, c'est le terme des références qui ont été définies pour ce travail. Et Madame Annie Maud venait là de vous énumérer les lois et qui éventuellement feront l'objet d'une modification. Et alors, vous avez posé la question pour le code du travail.
Oui.
C'est vrai, il y a la question de l'autorisation maritale. Il me semble que c'est déjà résolu, mais il n'y a pas que ça. Il y a la question des congés, maternité, de la considération de la femme au travail. Vous voyez, il y a des questions spécifiques, mais d'emblée comme ça, c'est difficile peut-être d'entrer dans le détail, mais ça nécessite des réflexions approfondies. Et les travaux et les projets est en continu. Donc, ce n'est pas quelque chose d'achevé. L'initiative a été lancée, il va falloir tenir des forums, réfléchir, et je crois qu'on n'a pas encore achevé la réflexion dans ce sens-là. Parce qu'il faut creuser à travers la loi et trouver quelle autre défaillance qu'il faut relever. Et bon, il y a ceux qui pensaient que le code du travail c'est suffisant en soi, mais lorsque vous voyez les standards sur les plans internationaux, on se rend compte qu'il y a encore des choses à améliorer. Je ne dis pas qu'il faut faire du mimétisme, hein, donc suivre peut-être à la loupe ce qui s'est fait en France, parce que le Congo reste le Congo, ou la France reste la France, mais la France peut nous inspirer, il peut y avoir des avancées positives, parce qu'il ne faut pas oublier que le Congo, autant que la France et d'autres pays, a adhéré, a ratifié les instruments internationaux, et que le Congo ne vit pas en vase clos, et donc la promotion de la femme, elle doit se faire aussi à la lumière de ce qui s'est fait à travers le monde.
Alors, honorable, est-ce qu'il revient aux députés ou à la société civile de s'asseoir, d'examiner des fonds en comble, par exemple, ce code du travail et trouver les failles, les faiblesses qu'il faut modifier?
Oui, bon, c'est vrai, il revient pas à la société civile de faire une proposition de loi, cela s'entend bien, mais il y a ce qu'on appelle l'avant-proposition de loi. Les acteurs de la société civile peuvent évidemment aider les parlementaires à pouvoir peaufiner leur argumentaire en vue d'élaborer une proposition de loi, et il revient aux députés d'endosser la démarche. Et c'est dans cet esprit que s'inscrit Afiamama. Donc Afiamama a des experts, des expertes et des experts qui donnent des idées, qui réfléchissent ensemble avec les parlementaires. Le parlementaire volontaire, je vous disais tantôt que nous sommes tous volontaristes, nous qui avions été contactés, endosse la loi. Alors si un collègue l'a endossé endosser une loi hier, un autre peut l'endosser demain, ainsi de suite. Donc, c'est question de toucher la disponibilité de tout un chacun. C'est un peu comme ça que se fait le travail. Donc, ils interviennent en amont, et quitte aux députés d'endosser la démarche législative et de concevoir le plaidoyer nécessaire, parce qu'on a, on a été, nos capacités ont été renforcées également en plaidoyer. Faire passer une loi au niveau du Parlement, c'est pas une chose facile. Il y a des pesanteurs, il y a des contraintes, il y a parfois des blocages. Alors, la matière qu'on a reçue, la formation qu'on a reçue, axée sur le plaidoyer, et ça nous permet effectivement de voir comment rallier un grand nombre pour donner des chances du passage d'une loi au Parlement.
Honorable, quelle est la procédure à suivre au Parlement pour faire passer une loi ou apporter des amendements?
Une loi peut provenir soit du gouvernement, on parle alors du projet de loi. L'initiative peut provenir du Parlement, et c'est là où nous sommes en train de parler. Et là, il s'agit d'une proposition de loi. Elle peut avoir été suggérée par la société civile, endossée par les députés qui y ajoutent ces enrichissements. Et là, la loi est réceptionnée au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. On l'envoie au bureau d'études pour un avis technique. Et puis, la loi est programmée en plénière, des présentations. C'est ce qu'on appelle débat général. Sur la loi. Sur le débat général, on n'entre pas dans le détail, mais on évoque un peu la philosophie de la loi, le contexte dans lequel la loi a été proposée. Et puis du débat général, l'initiateur de la loi la propose en débat général. Ça peut être le député, ça peut être les membres du gouvernement. Et il y a des questions qui lui sont posées. Et il peut solliciter un petit délai pour répondre. Alors, ou tout comme il peut répondre directement, et après on déclare la recevabilité de la loi. Après la recevabilité, la loi va en commission spécialisée. Ça peut être la commission politique, administrative et juridique qui reçoit presque la plupart des lois, mais il y a des lois qui vont dans d'autres commissions. Nous avons 10 commissions permanentes au niveau de l'Assemblée nationale, et pour ces cas spécifiques hein, qui concernent la question de la parité, ça peut aller, par exemple, à la commission, ça peut être la commission socioculturelle, ça peut être la commission genre, et là, on fait un examen approfondi. Et s'il y a des amendements à apporter, c'est à ces niveaux-là. Et puis, ça remontera en plénière, et en plénière, on fait l'examen de la loi article par article, on adopte la loi article par article, ainsi que l'exposé des motifs. Après cette étape, il faut une deuxième lecture de la loi, c'est dans l'autre chambre, la chambre sœur, qui est le Sénat. Après l'examen au Sénat, ça peut arriver que nous l'avions adopté en des termes différents des sénateurs. En ce moment-là, on constitue une commission mixte paritaire. Alors, si les divergences persistent en commission mixte paritaire, la Constitution veut que le point de vue de l'Assemblée nationale puisse l'emporter, parce que l'Assemblée nationale, c'est la Chambre élue au suffrage universel direct. C'est un peu comme ça la procédure. Après l'adoption par les deux chambres, la loi est envoyée au président de la République, et d'abord à la Cour pour... certaines lois vont à la Cour pour... les contrôles de constitutionnalité et après à la table du président de la République pour promulgation. Voilà un peu retracé brièvement ce qu'on appelle en termes techniques la navette législative.
Voilà, et tout cela, ça peut prendre du temps.
Ça peut prendre du temps, mais ça dépend aussi de la volonté politique. Hein. Tout est facteur de la volonté politique. S'il y a suffisamment de la volonté politique un peu partout, un texte même voluminé, ça ne prend généralement pas beaucoup de temps. Il faut d'abord que tout le monde soit persuadé de son importance, et je me dis que si tout le monde est persuadé de son importance, dans 2 semaines, une procédure législative peut être lancée et être achevée. Donc tout dépend de la considération qu'on apporte à ce texte.
Parce que, selon les informations reçues, d'ailleurs, pour qu'une loi soit programmée au cours d'une plénière, c'est tout un parcours des combattants.
Oui, la politique a toujours été parcours des combattants, surtout dans nos pays. En Afrique, cela est bien connu. On a parfois des soucis aussi, par exemple, par rapport à la loi sur les manifestations pacifiques, parce que l'article 26 de la Constitution ne règle pas toute la question. Alors, cette loi a été adoptée à l'Assemblée, était adoptée au Sénat. Il y a eu, je crois, une deuxième lecture. La loi était partie à la table du président de la République. C'est fait à l'époque Joseph Kabila. Mais ça avait traîné parce que jusque-là, beaucoup estiment que cette loi n'a jamais été promulguée et publiée au journal officiel. Et donc, voilà, donc il y a des cas comme ça où la loi traîne. Elle peut traîner soit à l'Assemblée nationale, elle peut traîner soit à la table du président de la République, raison pour laquelle, moi, j'en appelle toujours à un sens de volonté, à plus de volonté politique. Si la volonté politique est manifeste un peu partout, en principe, une loi, l'analyse ou l'examen d'une loi ne devrait pas prendre beaucoup de temps.
Il y a un auditeur qui a appelé tout à l'heure, Maître Ali Dekalemi, qui a dit qu'il ne faut pas se focaliser seulement sur la production des lois. On a déjà des belles lois dans ces pays qui souffrent d'application. Il faut plutôt se concentrer sur les animateurs de la justice qui doivent appliquer les lois qui existent déjà.
Oui, l'auditeur a pleinement raison, parce que le rôle du Parlement, ce n'est pas seulement de voter des lois, c'est aussi de contrôler les gouvernements, les services publics. Alors, nous sommes aussi dans ce rôle-là. Hein. Pour ne parler que de mon cas, ça c'était un peu avant l'initiative Afiamama. J'ai eu à suivre de très près la question des passeports biométriques au cours du mandat passé, parce que ça c'est ma deuxième législature. Mmh. Et toujours dans le cadre du contrôle, nous maintenons une vigilance tout azimut par rapport aux questions qui touchent à la femme, au genre. Des questions sécuritaires aussi, parce qu'il faut voir comment les femmes souffrent avec l'insécurité à l'Est. Et sur le plan du contrôle parlementaire, on a appelé en audition le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières. On a appelé en audition aussi, il était auditionné, le ministre de la Défense. Et on a vu, au cours de cet examen en commission Défense et Sécurité, les problèmes des femmes, par exemple, les femmes des militaires qui souffrent, les veuves, les enfants qui sont abandonnés dans les camps militaires et dans quelles conditions. Raison pour laquelle, dans nos recommandations, on a insisté dans les rapports qui ont été produits et présentés à l'Assemblée. Il faut qu'on améliore absolument les conditions de vie des militaires, des femmes des militaires, des enfants des militaires, des veuves, l'air social. Parce que si on ne le fait pas, ça va être difficile pour notre armée de remporter des victoires. Parce que les soldats, il ne faut pas le considérer seul, ou les policiers. C'est quelqu'un qui a une famille, qui a besoin de la motivation, qui a besoin à ce que sa famille, qui a besoin à ce que la question du genre soit prise en compte au sein de sa famille.
Bien. 50 députés sur 500 ont été formés par rapport à ce projet. Pensez-vous que les 50 députés peuvent bien influencer des choses afin qu'il y ait évolution, qu'il y ait intégration de la dimension genre dans nos lois?
Le 50, c'est un échantillon. Je sais que c'est 50 députés volontaristes, mais pour maintenir tout le monde, se donner beaucoup plus de chance, moi, je proposerai à ceux. On augmente le nombre de personnes à former, hein, et donc ça serait important que Afiamama arrive à avoir la possibilité d'agrandir un peu le cadre. On peut aller à 100 par exemple, parce que plus on forme plus de gens, plus on a plus de volontaristes, plus on aura la chance de pouvoir faire passer des initiatives de loi. Les facteurs nombre, évidemment, ça joue aussi. Il y a les facteurs volonté, comme j'en parlais, mais les facteurs nombre aussi, les facteurs numériques n'est pas aussi à négliger.
Bien, nous avons en ligne un auditeur depuis la ville de Mbujimayi. Douglas, bonjour.
Bonjour, Lordi.
Quelle est votre préoccupation par rapport aux lois et règlements en faveur de la parité?
Je disais, par rapport aux lois et règlements concernant la parité, il serait vraiment paradoxal de vouloir prôner la parité de la femme et en même temps vouloir émettre les lois et règlements qui vont toutefois, je dirais, protéger cette dernière. Si réellement la femme était réellement, égale par rapport à l'homme, c'est ce qui signifie la parité. Nous faisons partie de ceux qui nient cette parité et encouragent l'émancipation de la femme, parce que la femme ne sera jamais en aucune fois égale à l'homme. D'où cette histoire de la parité, moi je dis qu'elle est du diable.
Merci d'avoir appelé Madame Annie Maudy.
Oui, Monsieur Jody.
Vous avez la parole.
En fait, moi, je remercie d'abord mon frère là, d'avoir pris le courage d'appeler. On doit faire la part des choses. Il y a une dimension dans la vie qui est socio-culturelle. Il y a une dimension qui est juridique et il y a une dimension qui est spirituelle. Et lorsque nous disons parité, on ne dit pas parité de la femme. La parité, c'est homme et femme. Et lorsque nous disons droit de la femme, nous disons, depuis le début, on n'a même pas abordé l'aspect égalité. Puisque l'égalité dont on parle, c'est l'égalité des jouissances de droit. Devant la loi, tous, on est égaux. Et donc, lorsqu'on mélange le spirituel à ce qui est naturel, ça devient compliqué. Nous prenons la parité ici pour que tout le monde participe de manière égalitaire. Et aujourd'hui, nous sommes là en train de parler des hommes-femmes. Mais lorsqu'on parle de la parité, ça ne se limite pas là. Il y a les peuples autochtones, ils doivent être représentés. Il y a des personnes vivant avec handicap, doivent être représentés. Donc on ne va pas me dire que puisque ces personnes ont l'handicap, ils n'ont pas le droit de vivre. Et c'est comme je disais, l'intervention venant de Mbouchima vient de confirmer les défis que j'ai présentés tantôt, ce qui est des pesanteurs socio-culturelles. Tout simplement, ça n'a rien à voir avec les cadres légaux, mais ça a tout à voir avec la mentalité des gens, mais qui est aussi nourrie et maintenue par l'impunité qui règne, qui est aussi nourrie et maintenue par l'ignorance même des cadres légaux. Parce que il me parle de la spiritualité, même si nous rentrons dans la Bible n'a jamais prôné la discrimination de qui que ce soit. La Bible ne prône pas l'injustice sociale. Alors que ce que nous faisons ici, c'est une question de la justice sociale. C'est une question de l'accès aux ressources de manière équitable, homme ou femme. Donc, pour moi, c'est vraiment merci à lui, puisqu'il vient de confirmer que nous avons des défis qui est au niveau, qui réside au niveau des pesanteurs socioculturels et de la mentalité des gens. Et j'ai remercié l'honorable, puisque c'est avec eux que nous allons essayer de faire avancer une vraie nouvelle citoyenneté où les gens vont faire la différence entre leurs droits et les obligations, les droits des autres et les obligations des autres. Et tout ça en lien avec le respect des textes et des lois qui régissent la République. Et je reviens sur le rôle de la justice, justement, parce qu'on ne parlera de l'état des droits que lorsque les textes sont respectés et que la justice fait son travail de manière impartiale.
Bien. Honorable Juvenal, votre réaction par rapport à ce que Douglas de Mbouchima vient de dire. Honorable...
C'est vrai. Oui, vous m'entendez?
Oui, oui, allez-y, on vous entend.
Douglas, il est encore dans les pesanteurs culturels, quoi, hein, les coutumes rétrogrades. Vous savez, il existe effectivement des coutumes rétrograde où on pense que toute la rhétorique, toute la théorie sur les principes des droits de la femme ou du genre, c'est quelque chose qui relève de l'Occident, quelque chose d'importé et tout et tout. Moi, je crois que le genre, la question du genre, c'est d'abord une question des droits de l'homme. Et l'homme, ce n'est pas seulement l'homme masculin. Donc, les droits humains, ça veut dire l'homme et la femme. Et donc, c'est très important de promouvoir la femme, de protéger la femme. La femme joue un très grand rôle dans la société. Prenons les cas de toutes ces femmes-là qui sont devenues veuves à cause de la guerre ou dont les maris n'ont pas le travail. Tu sais, le poids. Qui supportent, beaucoup de femmes supportent le poids de leur famille maintenant là, hein, soit dans les petits commerces. Donc la femme joue un très grand rôle, hein, c'est un rôle central dans la famille. Et le rôle de la femme n'est pas seulement cantonné au niveau des ménages, donc la femme doit s'épanouir aussi, elle doit aussi apporter sa contribution, et même sur le plan politique, raison pour laquelle, parmi les lois que nous devons absolument réviser, lorsque viendra les moments de réviser la loi électorale, vous savez que je suis l'un des membres des 13 personnalités qui militent pour un consensus dans le processus électoral au Congo. Pour la loi électorale, il va falloir aussi voir la question du genre dans cette loi-là. Est-ce qu'il ne faut pas aller même jusqu'à proposer carrément un quota, hein, pour les partis politiques, un quota des femmes dans les candidats? Alors, c'est une question qu'il faut y réfléchir. Et donc la question du genre, c'est pas une question. Le genre, c'est pas seulement pour la femme. Et puis le genre, c'est la femme, mais c'est l'égalité aussi des chances. C'est ça. Quand on parle du
honorable,
genre, ça
honorable, l'égalité des chances. Par exemple, oui. Au niveau des partis politiques, pourquoi généralement, lorsque les partis présentent les candidats, les femmes sont toujours sous-représentées?
Je crois qu'il faut travailler à deux niveaux. Il y a d'abord le niveau des leaders politiques qui ne favorisent pas, hein, les leaders. C'est pas tous les leaders des partis politiques qui facilitent l'alignement des femmes, hein, sur les listes des partis. Chez nous, à l'UNC, les femmes ont été alignées. Et donc, il faut sensibiliser davantage les leaders des partis politiques. Ça, c'est un premier axe du travail à faire, ou du plaidoyer à faire. Un autre axe du travail, c'est d'inciter auprès des femmes aussi. Des ambitions, hein, susciter des ambitions. Il faut que les femmes s'expriment et pas seulement être derrière les hommes. Donc là aussi, c'est un travail à faire aussi, parce que la politique, comme vous le savez, comme on dit, il y a un adage que ça s'arrache, quoi. Hein. C'est pas des cadeaux, on n'offre pas ça sur un plateau d'argent. Et donc, les femmes doivent se battre, on est tous d'accord avec ça, Mais au niveau, il faut aussi leur faciliter la tâche, hein, parce qu'il faut l'accès égalitaire, l'égalité des chances et l'accès égalitaire à l'exercice du pouvoir, le droit à la participation politique.
Voilà. Alors aujourd'hui, il y a des discussions par rapport à la loi électorale et par rapport à la CENI. Voilà, plusieurs personnes, plusieurs voix s'élèvent, sont d'accord pour que la CENI soit restructurée. La loi électorale également doit être revue. Est-ce qu'on peut dire que ce sera l'occasion de pouvoir rendre cette loi beaucoup plus sensible aux gens?
C'est une opportunité, et ça je le dis à Madame Annie Maudit, parce qu'avant même de lancer l'appel du 11 juillet, je l'avais intéressée, je sais son dynamisme à la tête des Afia Mama, très dynamique dans sur cette question, et elle a été d'accord avec nous, elle était un peu empêchée, mais elle devait aussi être parmi les signataires de notre appel, et on reste en contact avec elle. Moi je crois que c'est une opportunité aussi, parce que l'initiative des 13 parlementaires vise à asseoir un consensus dans le processus électoral, parce que les tensions sont fortes dans la classe politique au Congo. Nous avons eu le temps de les dire à Radio Capi au cours d'autres tranches, soit dans les tranches des journaux parlés. Mmh. Et donc c'est important qu'à travers ces forums techniques que nous voulons, hein, axés uniquement sur la question des élections, lorsque viendra le moment de réviser la loi électorale, qu'on tienne compte de la dimension genre. Hein, c'est vraiment une opportunité à saisir, et je crois que Afia Mama est en train de m'écouter, c'est une opportunité à saisir pour que dans les modifications qui interviendront, qu'on en tienne compte de la question du genre. Hein, on ne peut pas s'en passer en tout cas.
Bien, Madame Annie Maudit, votre réaction par rapport à ce que l'honorable vient de dire. Madame Annie, vous êtes en ligne?
Allô?
Oui, allez-y.
Je disais, semble dans les processus d'améliorer la représentativité des femmes dans toutes les institutions, nous saisissons effectivement l'opportunité que la réforme offre pour essayer pour impulser cette représentativité des femmes. Et nous travaillons aussi avec les femmes, nous travaillons sur les femmes pour qu'elles soient formées. Nous avons le mouvement Rien sans les femmes, nous avons aujourd'hui la dynamique des femmes candidates, les cartels des femmes, les femmes leaders. Tout ça, c'est des plateformes que nous avons créées, mises en place pour accompagner les femmes. Ça s'est fait parallèlement à des efforts que nous fournissons pour que les décideurs maintenant arrivent aussi à valoriser, considérer, reconnaître et aligner les compétences féminines. Ce ne sont pas les ambitions qui manquent, c'est peut-être parfois les courage. Et comme on a dit, ça vient de très loin. Nous avons des racines qui proviennent des non-familles, et comment on a éduqué. Un aspect qu'on n'a pas touché, mais qui nous touchons toujours, c'est que nous devons aussi changer la manière d'éduquer les enfants à partir de la maison. Comment une fille est préparée à prendre le courage, à prendre les risques, à s'affirmer, à prendre la parole, à ne pas être timide? Ça commence à la maison. Ça, c'est aussi un aspect que nous touchons pour qu'à long terme, nous ayons des adultes capables de prendre le courage, de prendre les risques de la même manière. Puisqu'on a tendance à protéger un peu à l'excès la petite fille, mais ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'on détruit son courage, on détruit sa capacité à prendre les risques, on détruit sa capacité à relever des défis qui sont en dehors de l'espace familial ou du foyer. Nous travaillons à plusieurs niveaux. Et je suis d'accord que la réforme a offert une opportunité, mais c'est ensemble, main dans la main, les hommes genrés ou les he-for-she qui croient à la contribution de la femme, à la participation de la femme ou le développement de la RDC. Ensemble avec les femmes, nous allons arriver à relever ces défis-là.
Bien. Comment promouvoir les lois et règlements en faveur de la parité? Nous allons clôturer cette première partie de l'émission. Nous allons dire merci à Madame Annie. Nous disons merci à Madame Annie Maudit, présidente de l'ONG Afia Mama, et merci à l'honorable Juvenal Munobo, député national. Nous allons, après les informations, nous allons poursuivre cette émission et nous allons accueillir l'honorable Dédé Mopassa, député national, pour en savoir un peu plus. Madame Annie et honorable Juvenal Munobo, merci.
Merci, monsieur Jody Kachama.
Bien. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Okapi Service. Nous mettons ainsi un terme à cette première partie de l'émission Okapi Service. Nous allons souffler un tout petit peu. On va suivre les informations et on se retrouve.
Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Merci d'écouter le magazine de la vie au quotidien, Okapi Service, et merci à vous qui venez de nous rejoindre sur la fréquence de la paix. Nous parlons aujourd'hui de comment promouvoir les lois et règlements en faveur de la parité. Bien, nous avons en ligne Madame Pascaline Zamunda, consultante en genre et en communication pour le changement des comportements et coordonnatrice du CREJ, cadre de récupération et d'encadrement pour l'épanouissement intégral des jeunes. Madame Pascaline, encore une fois, bonjour.
Bonjour, jeudi. Bonjour à tous les auditeurs.
Bien, nous savons qu'en RDC, certaines lois constituent un frein au développement, à l'épanouissement et à la représentativité des femmes dans la sphère des prises des décisions. Pour les outiller à mener le plaidoyer en faveur de la parité, certains honorables députés ont été renforcés en capacité en logistique et technique de prise de parole en public. Un projet exécuté par l'ASBEL Afiamama en collaboration avec l'ambassade de France. Alors, comment promouvoir les lois et règlements en faveur de la parité en République démocratique du Congo? Madame Pascaline, c'est la toute première question que je vous adresse.
D'accord, merci beaucoup, jeudi, et félicitations à Afiamama pour cette action très louable. Comme vous le savez, on a l'habitude de se contenter des lois et on oublie que les lois produisent des résultats, mais il faut revoir encore, surtout en ce qui concerne les droits des femmes, il faut agir aussi sur les résultats de ces lois-là. Si je peux me permettre, je vais prendre l'exemple de la France. À un moment donné, les femmes se réjouissaient beaucoup des congés de maternité qui sont allés, je crois, de 3 mois à 1 année. Mais ils se sont rendus compte par la suite que les femmes avaient du mal à réintégrer leur travail, surtout celles qui occupaient des positions stratégiques. Pourtant, c'était une loi. Normalement, en la lisant, on pouvait dire c'est une très bonne chose, c'est une très bonne avancée. Mais les résultats de cette loi-là a créé encore d'autres violations, si vous voulez, et elle n'a pas vraiment facilité la promotion de la femme. Et donc, il fallait encore revenir sur cette loi, ou non, même pas revenir sur la loi, mais voir dans quelle mesure il faut créer d'autres conditions pour permettre à ce que la femme, même si elle bénéficie de son congé de maternité, puisse aussi réintégrer son travail. Comme ça qu'ils ont créé les congés de paternité pour voir si la femme n'est pas disponible à prendre son congé de maternité annuel, les papas de l'enfant peut prendre et la femme peut réintégrer rapidement son travail. Donc c'est la même chose dans notre contexte aussi. Nous dénonçons des violations des droits des femmes, nous dénonçons les violences basées sur les genres, dont certaines aussi ont été glissées dans beaucoup de lois, des lois qui portent beaucoup des germes de violence dans notre contexte, il y en a. Et ça explique la lutte à la base pour revoir ces lois et voir comment est-ce qu'elles peuvent être vraiment favorables à la promotion des droits de femmes. Donc c'est notamment le travail que nous devons mener ici, c'est d'identifier tout cet arsenal de lois qui portent encore des germes de violence basées sur les genres et de les amener à une place où on doit les traiter et les revoir et peut-être créer d'autres lois qui vont venir compléter vis-à-vis du contexte et promouvoir, comme vous avez dit, celles qui promeuvent à 100% les droits des femmes. Donc c'est ce que je peux donner comme commentaire là-dessus.
Madame Pascaline, quel état des lieux vous faites de la parité en RDC?
Bon, c'est une question intéressante. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a un certain immobilisme il y a un manque de structuration, parce que si nous pouvons faire un petit recul depuis la nomination du gouvernement actuel, on n'a pas atteint 50%, parce que l'objectif de la parité, en tout cas l'objectif primaire, c'est d'atteindre la représentation équitable et égalitaire des hommes et des femmes à des postes de prise de décision. C'est ça, l'objectif de la parité. Mais on sait que dans notre contexte, cela peut paraître difficile, mais on sait que les compétences féminines, il y en a, et il y en a partout aujourd'hui, même au sein des partis politiques. Parce que les raisons qu'on nous avançait, c'était que non, il n'y a pas de femmes dans les partis politiques, mais les femmes sont là. mais c'est la loi qui n'est pas appliquée. Alors s'il faut parler de l'état de l'UE, de la parité, je veux dire qu'on n'a pas encore fourni beaucoup d'efforts. Et si je peux me permettre, dernièrement, on a eu une vague de nominations. Il y a eu une femme ici, combien d'hommes là-bas.
Au gouvernement, il y a eu des nominations. Au gouvernement, dans les entreprises publiques, il y a eu des mises en place.
Oui, mais c'est ici, on va évaluer, c'est moins de 10% des femmes. C'est là que je dis, ce n'est pas structuré. On est encore dans la logique de la parité comme une loi. Parce que la volonté de nommer une femme, ça revient toujours aux hommes. C'est attaché aux individus, soit c'est un parti qui envoie juste par hasard comme ça une femme, mais c'est là, il n'en faut pas une condition. Même le président de la République n'en a pas fait une condition. Je crois qu'il voit les têtes. Il voit les têtes des femmes, on lui propose et il dit que bon, cette femme peut aller là-bas. Mais ce n'est pas vraiment dans la logique de respecter la parité. Parce que c'était dans la logique de faire respecter la parité, la base devait être claire. On part ça sur une base de 50% ou bien on part sur une base de 30% comme cela a été proposé au niveau de la conférence de Beijing pour dire que si la représentation n'atteint pas les 50%, on peut aller au moins au minimum à 30%. Et c'est ça notre souci. On ne va pas applaudir quand nous voyons que c'est une liste de 10 personnes. Il y a trois femmes et on dit que c'est, il y a deux ou trois femmes et on dit que c'est une avancée. Non, parce qu'on sait que les compétences des femmes sont là. On sait qu'on a une loi qui veut que les hommes et les femmes soient représentés de façon égalitaire. Et pourquoi ne pas l'appliquer alors? Donc, on trouve que, moi, personnellement, la loi sur la parité n'est pas du tout respectée. Elle est violée.
Voilà. Il y a un internaute qui nous a écrit pour dire, dans un contexte des jeux politiques d'alliance, s'il n'y a pas des femmes compétentes de part et d'autre, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là?
Mais qu'est-ce qu'il appelle compétence? Il faut voir ces femmes à l'œuvre pour juger si elles sont compétentes ou non. Et qu'est-ce qu'il veut nous dire? Est-ce que c'est le fait que les hommes occupent des postes stratégiques dans les partis politiques, c'est ce qui leur confère la compétence? C'est faux ce qu'il dit. Et c'est une fausse excuse parce qu'on sait tous comment ça se passe. Les femmes sont là. Aujourd'hui, les partis politiques ne se sentent pas obligés. Et c'est ça le problème, parce que si les gens au niveau du parti politique, ils ne se sentent pas obligés d'intégrer les femmes, et donc ça crée un blocage, parce qu'ils diront toujours la même chose que nous, on n'a pas de femmes, alors que c'est faux. Ces femmes-là existent au sein de leur parti politique. Le problème, c'est que déjà au niveau du parti politique, on ne leur donne pas la chance d'occuper des postes de grandes responsabilités. On les utilise parce que quand il faut montrer les biceps, que nous sommes un parti majoritaire, on fait recours aux femmes et aux jeunes. Et parmi ces jeunes et ces femmes, il y a des compétences réelles. Alors, ce n'est pas une excuse, même que ce soit dans un cadre d'une alliance ou quoi, tout ce qu'il a évoqué, c'est faux, c'est qu'on n'a pas tellement l'esprit au respect des lois. C'est ce que je peux conclure.
Alors, aujourd'hui, si vous essayez d'examiner nos lois dans l'ensemble, est-ce qu'on peut dire que ces lois sont sensibles au genre?
Non, pas toutes. Hein. Bon, déjà, dès le départ, il y avait beaucoup, comme je dis, beaucoup de germes de violences basées sur le genre, presque dans toutes les lois, parce qu'il y avait une forte influence, en fait, de nos coutumes et nos us, en fait, dans les lois. Et ça, c'est tout à fait normal, parce que le contexte évolue avec les temps et avec toute cette liste qui est menée à la base. Et donc, il y a beaucoup de lois porteuses déjà, mais il y a aussi manque de lois spécifiques sur les questions du genre. Aujourd'hui, nous déplorons presque dans tous les domaines le manque de prise en compte des besoins sexuels spécifiques des femmes au niveau de loi. Aujourd'hui, on est en train d'évoquer les problèmes de maladies, les problèmes de l'environnement professionnel. On entre dans le bureau, par exemple, où il y a des lois qui protègent les travailleurs, mais il n'y a pas des installations, par exemple, prévues pour les femmes. On ne tient pas compte de la situation sanitaire de la femme dans cet environnement. Mais tout ce sont des manquements. On sait aujourd'hui qu'on a des problèmes d'application de lois, mais il y a beaucoup de vides aussi en termes de lois elles-mêmes. Donc, nous, on a besoin d'avoir ces lois-là pour les promouvoir et assurer et demander à ce que leur application soit assurée.
Bien, il y a un auditeur qui avait posé la question dans la première partie de cette émission. Il dit dans ce pays, nous avons des belles lois, mais qui souffrent de l'application. Donc, il voit pas pourquoi on va encore aller amender les lois qui existent. D'après lui, il faut plutôt se concentrer sur les animateurs de la justice qui sont censés appliquer les lois qui existent déjà.
Non, mais dans la justice, si la loi n'existe pas, on ne va pas la créer. On dit que c'est que la loi n'a pas dit, personne ne va le dire. Et donc, et ça aussi, on peut nous opposer ça comme un argument. Nous, on veut d'abord que ces lois-là existent. Et l'application va suivre après, on ne sait jamais. Aujourd'hui, on voit qu'il y a peut-être une certaine volonté à faire activer la justice et ça peut aussi nous servir. Mais le fait d'abord qu'il y ait des lois porteuses de ces jambes-là, qu'il y ait ce problème de non-application de loi et qu'il y ait manque, absence d'autres lois spécifiques, vous voyez que tous ces cocktails-là est bien fait pour faire échouer la promotion et la participation de la femme. Et donc, à chaque niveau de ces problèmes-là, il faut qu'on trouve une solution. On ne peut pas les mettre ensemble. Le problème d'application de loi est un problème. Mais le problème d'avoir des lois qui favorisent les femmes, qui parlent qui militent contre les violences basées sur les genres et qui promeuvent la femme, c'est une autre chose. Et donc, les deux choses, une chose ne peut pas répondre à l'autre. On veut que les lois s'appliquent. On veut qu'il y ait des lois spécifiques sur les questions des femmes. Et puis, on veut que l'environnement, de façon générale, puisse s'améliorer en faveur de la promotion des droits de femmes.
Au Capi Service, nous parlons aujourd'hui de comment promouvoir les lois et règlements en faveur de la parité. Vous voulez participer à cette émission? Eh bien, écrivez-nous à service@radiocapi.net et postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Au Capi Service.
À l'occasion des 75 ans des Nations Unies, retrouvez sur les antennes de Radio Capi l'histoire de l'engagement de la République démocratique du Congo dans le système onusien. L'accompagnement de l'Organisation mondiale dans le processus de développement et de stabilisation de l'RDC. Ensemble avec la famille de l'ONU.
Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service. Une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Comment promouvoir les lois et règlements en faveur de la parité? Nous avons en ligne Madame Pascaline Zamunda, consultante en genre et en communication pour le changement des comportements et coordonnatrice du CREJ, cadre des récupérations et d'encadrement pour l'épanouissement intégral des jeunes. Madame Pascaline Zamunda, parlons du code de la famille. Quelles sont les avancées qu'on a déjà enregistrées par rapport au genre et puis qu'est-ce qui reste à faire pour que notre code de la famille devienne sensible au genre?
Voilà, je sais que le code a été modifié sur certains aspects, mais comme moi je l'ai dit tantôt, c'est qu'on ne peut pas juste se contenter d'énumérer le nombre d'articles qui ont été modifiés, mais il faut agir, il faut aller plus loin et agir sur les résultats que nous attendons que ces articles-là vont produire, parce que le contexte n'a pas beaucoup évolué par rapport aux femmes et aux rapports, hein, parce que c'est ça même les gens voient les rapports des hommes et des femmes dans la communauté par rapport à leur rôle, leurs attributions dans le temps et dans l'espace. Alors, on a retouché par rapport à certains aspects précis. Ce que je retiens, c'est qu'au moins les femmes, elles ont eu cette émancipation par rapport à l'autorisation maritale quand elles veulent s'engager dans une affaire, mais on n'a pas dit que la femme ne devait pas consulter l'homme, mais ça veut dire que ils sont plus dans le régime maintenant de changer les d'entendement, de trouver un consentement, mais pas le régime que l'homme doit, c'est la vie de l'homme qui s'impose ou qui précède toute chose. Et il y a notamment d'autres aspects qui parlent que, bon, en cas de violence sexuelle ou bien en cas de violence basée sur les genres, l'intérêt supérieur de la femme est prévalu. Mais tout ça encore, c'est au niveau de la loi qui est écrite. Mais c'est dans la pratique, c'est là où tous les problèmes se passent. C'est l'environnement qui prête aussi. Donc, on doit vraiment agir et ne pas juste considérer la loi elle-même, mais se voir aussi en même temps quel est le contexte. Je ne peux pas m'engager pour dire qu'il y a eu des avancées parce que tout ça, ça demande vraiment des recherches à la base pour voir quelles sont les statistiques, comment cela a été bénéficiaire. Comment les femmes ont été bénéficiaires de cette modification du code de la famille. Je sais certainement qu'il doit y avoir des cas par-ci, par-là, mais encore une fois, il faut qu'on revoie et qu'on revienne sur les résultats et voir comment est-ce que nous pouvons encore amender et voir quelles sont les perspectives. Mais pour ce qui concerne les genres, parce que les gens englobent un peu le tout, oui. Les genres, c'est vraiment cette analyse qui nous amène à voir les rapports des hommes et des femmes dans la communauté. par rapport à leurs responsabilités et leurs attributions, par rapport à la vie, hein, la vie quotidienne d'ailleurs, et à tous les systèmes, donc tous les petits systèmes, les systèmes politiques, les systèmes professionnels, les systèmes sanitaires, les systèmes, et en commençant par la famille elle-même. Et donc, vous allez voir que la parité, tout ce qu'on fait pour la parité dans le cas des droits des femmes, c'est pour essayer un peu de corriger, de répondre aux inégalités, aux inégalités du genre au niveau de notre société. Or, on sait très bien que les mêmes efforts ne sont pas fournis à tous les niveaux. La lutte pour les gens aujourd'hui est presque portée par la société civile à travers les organisations avec l'appui de leurs partenaires. Mais les gouvernements, en tant que répondant numéro un, on sent que, soit à un certain niveau, c'est qu'ils viennent juste comme pour accompagner, alors que c'est eux qui devaient s'approprier cela et donner les grandes lignes directives.
Madame Pascaline, nous savons qu'il existe, il y a un ministère du genre, famille et enfants, qui s'occupe de ces questions-là.
Ça a toujours existé, d'ailleurs, ça fait très longtemps. Mais bon, chaque fois, la propre expérience que j'ai avec le ministère, c'est que ce sont les limites budgétaires qu'ils ont, les limites aussi en termes de personnes ressources. Parce que si vous allez là-bas, vous n'avez pas toujours tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir la personne, on peut vous orienter vers une personne, mais la personne ne sera pas suffisamment outillée parce qu'il va vous dire on n'a pas suffisamment de moyens pour mener les enquêtes, pour descendre sur le terrain, pour recueillir les informations. Du coup, vous êtes bloqué. Et donc, je veux bien, on a un ministère, et le ministère qui essaie de tout centraliser, mais le ministère ne donne pas vraiment suffisamment de réponses. Et ça, on ne doit pas se voiler la face à toutes les questions et les préoccupations. Nous connaissons très bien la volonté des ministres qui se succèdent à ce poste-là, mais je suis sûre que même eux-mêmes savent très bien qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique. Et ça concerne même le niveau stratégique pour savoir quelle est la part que le gouvernement, que le chef de l'État qui porte la vision du changement et qui croit peut-être au genre et à l'égalité homme-femme, quelle est la part qu'il réserve aux questions sur le genre et les droits des femmes. Ce n'est pas seulement des slogans, mais il faut vraiment que cela s'accompagne avec des actions bien déterminées, surtout avec des ressources nécessaires. Parce que le genre... Les femmes ne sont pas concernées que pour les droits de l'homme ou bien les violations dont on évoque chaque jour ici. Il ne faut pas oublier que les femmes portent, ce sont les socles même de la survie des ménages en RDC actuellement et ailleurs. Donc il y a plusieurs aspects que cela peut porter et qui justifient la nécessité d'investir dans les femmes, dans leur éducation, dans leur épanouissement, tout en n'oubliant pas les jeunes filles, parce que c'est elles qui sont préparées à prendre la relève.
Comment promouvoir les lois et règlements en faveur de la parité? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service. Merci à tous les internautes qui nous ont écrit pour participer à cette émission. Nous avons, je m'en vais lire la question de Moke Kisimba. Il dit, à mon avis, la femme est une personne comme les autres. Alors aujourd'hui, d'autres femmes sont intelligentes plus que les hommes. Je demanderai au gouvernement de revoir la loi pour permettre aux femmes de retrouver leur valeur. C'est Benoît depuis Mbandaka. Madame Pascaline.
Oui, merci beaucoup. Je trouve qu'il est dans la logique de promouvoir. La femme est une personne comme les autres, c'est une créature. Mais aucune créature ne peut pas se développer seule si elle se retrouve dans un environnement où on ne lui offre pas les chances et les opportunités de se développer et de réaliser son potentiel. Donc c'est tout ça le sens de notre combat. On est de certaines manières, mais c'est dans notre environnement où nous trouvons les éléments qui nous retiennent et qui retiennent notre épanouissement. Donc, je suis d'accord avec lui que nous devons fournir des efforts pour mettre les ressources nécessaires à l'épanouissement des femmes en commençant d'abord par son éducation, en commençant par à assainir son environnement pour qu'il n'y ait pas assez de violences basées sur les gens qui doivent retenir dès le bas âge l'épanouissement de la jeune femme. Et aujourd'hui, nous sommes en train de crier au sujet des viols, des violences sexuelles qui sont devenues une monnaie courante et qui nous inquiètent, nous, en tant qu'activistes. C'est ce qui devait vraiment attirer l'attention de tout le monde parce qu'on peut bien avoir la gratuité de l'enseignement, mais pour une petite fille de 2 ans ou 3 ans qui est violée, ces droits-là ne peuvent pas en jouer totalement parce que comment, dans quel état psychologique, dans quel état sanitaire elle va se retrouver? Alors l'État devait vraiment encore durcir les mesures et de prévention et de lutte contre l'impunité des violences sexuelles et les violences basées sur les genres.
Bien, nous allons accueillir à présent l'honorable Dédé Moupassa, il est député national. Honorable, bonjour.
Bonjour.
Nous parlons de la promotion des lois et règlements en faveur de la parité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour promouvoir des lois et règlements sensibles au genre?
Oui, il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser d'abord l'opinion du consommateur de la loi, l'opinion publique, la population, de maîtriser cette notion de genre. Et ce qui fera que les lois, toutes les lois qu'on peut faire, j'ai dit bien toutes les lois, pourra alors tirer l'attention et spécifiquement tenir compte de l'existence du genre. Parce que nous venons d'un système traditionnel, dans plusieurs cas, qui a anéanti l'évolution, l'effort de genrer femme. Alors, pour cela, il faut la mise à niveau de cette compréhension et sensibiliser, comme je dis, et avoir des lois qui tiennent compte de genre.
Voilà. Alors, dans notre loi aujourd'hui, quelles sont les dispositions qui sont, qui démontrent un certain nombre de faiblesses et qui méritent d'être modifiées?
Oui, mais le faiblesse, c'est tout simplement, d'abord, comme je l'ai dit, nous devons prendre toujours à base notre tradition, notre coutume. Là, aujourd'hui, quand les femmes réclament leur position, leur positionnement dans des groupes politiques ou dans des postes de décision, comme on dit, ou pour des études, pour avoir une classe bien déterminée, intellectuelle, de connaissances, il faut que toutes ces lois qui gèrent la République puissent pousser ces femmes vers cela. Mais aujourd'hui, on constate que la société n'accorde toujours pas cette opportunité aux femmes, aux dames d'émerger. Mais avec quelques lois qu'on a déjà faites dans le code de la famille, ça, ce sont des avancées. Mais d'une manière générale, que ce soit par exemple la loi électorale, de ce côté-là, du côté politique, il y a encore un petit problème. La loi de parité, qu'a bien été consacrée dans la Constitution, les lois organiques n'accordent pas encore cette chance égale à tout un chacun, disons, surtout aux femmes, d'accéder librement. Donc ce sont des efforts qu'on doit faire pour améliorer, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs faiblesses dans nos lois.
Prenons par exemple au niveau du Parlement, sur 500 députés, il y a combien de femmes aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que le genre est respecté au Parlement?
Non, mais il y a quelques... Bon, aujourd'hui, on a la grande dame qui nous gère au niveau du Parlement, au niveau du bureau, et il y a quand même un nombre considérable en termes d'avancée. Mais c'est pas en termes de nombre, ce que je cherche, c'est pas en termes de nombre, c'est en termes qualitatifs de la considération du genre de la femme dans toutes les lois, dans la société, dans la manière de vivre. C'est ça qui est plus important. Même ces efforts-là qu'on veut qu'ils soient dans des postes de décision, c'est pour influencer, c'est pour tenir compte de leur participation. Alors, mais pour revenir pour l'Assemblée, c'est l'accessibilité. Comment on accède au Parlement? Les élections pour devenir député doit dans la loi législative, pardon, dans la loi électorale, doit déjà insinuer dans les partis politiques le fait des candidatures ou des listes femmes ou ceci, cela, déjà au départ, pour permettre cette équité-là. Au cas contraire, si on ne le fait pas, on met dans l'imbriglio, ça posera un problème. Et ce sont des problèmes qu'on a jusque-là. Et aussi, la qualité ou le courage de la femme, quand j'ai dit la société doit comprendre les problèmes genrés, c'est ça aussi pour que les dames s'engagent dans la vie politique, s'engagent dans le courant politique, s'engagent dans les partis politiques pour faire évoluer tout cela. Parce que le monde législatif ou alors électoral ne se passe que dans le milieu politique. Donc ils doivent s'engager dès le bas âge, aussitôt que le processus électoral s'engage.
Alors, vous avez eu une séance de renforcement des capacités en logistique et technique de prise de parole en public avec l'ASBEL Afiamama, en collaboration avec l'ambassade de France. On a appris que 50 députés ont été formés, mais on s'est dit sur 500, est-ce que les 50 députés formés aujourd'hui peuvent suffisamment influencer pour que les lois soient amendées tout en intégrant la dimension genre?
Mais oui, les 500, les 50 députés déjà peuvent faire tomber, peuvent changer le mouvement législatif de toute l'Assemblée nationale là-bas, hein, vous savez, avec une pétition signée par 50. C'est que déjà ces blocs-là peuvent bouleverser beaucoup de choses. Mais notre problème, ce n'est pas de bouleverser, mais c'est d'influencer. D'influencer et de changer notre comportement comme politique dans notre façon de faire les choses, en tenant compte des éléments qu'on a appris dans cette formation, dans cette mise à niveau. Et nous sommes fiers de cela aujourd'hui. Je suis initiateur, grâce à toutes ces formations, j'ai dû améliorer et aujourd'hui je suis initiateur d'une loi qui est déjà passée au niveau du bureau, qui serait déjà au niveau du gouvernement. Donc c'est une très bonne chose, j'ai tenu compte de toutes ces critiques, toutes les remarques et des enseignements que j'ai reçus. Donc c'est positif.
Voilà, c'est justement la loi sur les personnes de troisième âge. Vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, parce que vous savez qu'on est signataire de beaucoup de traités régionales et internationales, des recommandations des Nations Unies. On doit tenir compte ici dans notre pays pour être un pays moderne, un pays bien coté. Et dans ces exigences, effectivement, on a dit des personnes vivant avec handicap ou des personnes de troisième âge sont des personnes spécifiques qu'il faut une loi organique qui doit l'organiser. C'est vrai qu'on a mis ça dans notre constitution depuis 2006, à l'article 49, mais il n'y a jamais eu cette loi qui encadre un peu, qui promouvoit les personnes de troisième âge. Et nous, nous sommes attelés là-dessus. Au jour d'aujourd'hui, la loi est passée. Nous avons une loi avec 49 articles, mais on sait peut-être jusqu'à 60, avec des améliorations des contacts qu'on a avec des ONG et des personnes même de troisième âge, quelques améliorations qu'on a faites. Donc, nous respectons la notion du genre dans cette loi et ça nous a permis que ça s'est quand même insisté dans le sens pour une première expérience que cette loi n'est pas assez de problèmes dans la manipulation.
Pouvez-vous donner deux, trois exemples dans cette loi qui intègre qui la notion genre?
Oui, vous voyez, par exemple, les personnes de troisième âge, je prends comme ça. Et pour que la notion de genre, je prends quel article là? J'ai 2, 3, 4 articles qui reviennent là-dessus. Par exemple, pour dans l'architecture, par exemple. L'architecture, quand il y a de maisons que vous construisez, pour que les personnes de troisième âge puissent habiter. Et le troisième âge, je prends les gens de plus de 60 ans, par exemple. Alors, il y a des styles de partage de pièces pour que les gens puissent y vivre, cuisine ou tout ce que vous voulez, doit respecter le personne qui doit y habiter. Parce que vous ne pouvez pas mettre les personnes de troisième âge dans une maison en étage de deux niveaux, trois niveaux, mais qu'il n'y a pas d'ascenseur. Ça, c'est d'une manière générale d'abord, hein, cas comme ça. Mmh. Mais alors, pour prendre le problème Jarret, vous savez que les dames ont des problèmes spécifiques. Les mamans ont des problèmes spécifiques à elles. Il faut que, dans la manière de faire la toilette, il faut vraiment prévoir les éléments qui pourront aider la maman à cet âge avancé d'accéder à sa toilette calmement. Alors, ça, je donne seulement un exemple comme ça, mais il y a plusieurs articles d'emblée que je ne peux pas évoquer ici, que mes textes soient devant moi. Mais nous avons tenu compte d'un certain nombre de choses, peut-être au cours des discussions avec vous sur l'antenne, ça pourra revenir petit à petit.
Madame Pascaline Zamunda, vous avez suivi l'honorable Dédé Moupassa avec la proposition de loi qu'il a faite. Votre réaction?
Oui, c'est une loi très importante, d'autant plus que ça va bénéficier non seulement aux femmes, pour ne parler que de femmes, mais aussi à toutes les personnes des troisième âge. Et c'est une loi qu'on encourage parce qu'on s'est rendu compte que dans notre pays, il n'y a pas beaucoup de lois spécifiques. Hein. Les lois sont beaucoup plus générales, pour ne pas dire génériques aussi, parce qu'elles n'ont pas en profondeur et ne relèvent pas vraiment les aspects non seulement spécifiques, mais quelque chose spécifique pour ce qui concerne les femmes. Parce que même quand on évoque les personnes de troisième âge, il faut encore aller dans cette loi et voir quels sont les aspects des sexo-spécificités qui concernent les femmes, les vieilles de troisième âge. Parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas les mêmes problèmes. Les femmes vieilles de troisième âge, elles ont certains problèmes particuliers, notamment elles sont accusées de sorcellerie, par exemple. pour la plupart, il y en a aussi qui sont victimes de vols ou bien de violences sexuelles et violences basées sur le genre. Il y en a qui sont victimes de répudiation et tout ça. Et cette loi, moi, je voudrais vraiment voir si elle a pris en compte tous ces aspects-là pour qu'elle soit vraiment complète et complémentaire à toutes les autres lois qui existent. Parce que l'effort qu'on devra faire, c'est de voir comment est-ce que chaque loi prend en compte cette dimension de sexo-spécificité. Ça sera très capital, parce qu'aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup d'insuffisances vis-à-vis de ces questions-là, et on sent ces vides-là, et finalement, les femmes ont l'impression de se retrouver abandonnées à leur propre sort, parce qu'on ne sait pas comment les aider, dès lors que les lois qui devraient les protéger ne prennent pas en compte leurs problèmes spécifiques.
Bien. Alors, honorable Dédé Moupassa a dit tout à l'heure qu'il faut, pour promouvoir les lois et règlements en faveur de la parité, il faut beaucoup plus sensibiliser. Il faut sensibiliser. Quel est votre avis?
Bon, la sensibilisation n'a pas de fin. Hein. Toute notre vie, on vit de la sensibilisation, on vit de la sensibilisation. Mais à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses. Quand on a fini à sensibiliser, on fait. Parce que chaque organe doit jouer son rôle. On a déjà dit pour les violences sexuelles, il faut sensibiliser. On sensibilise et on sensibilisera toujours parce que ça ne peut pas s'arrêter. Mais on a un problème, par exemple, d'application même de la loi. Mais ce n'est pas aux gens qu'on sensibilise qui vont appliquer la loi. Alors, il faut que les choses se débloquent aussi à un autre niveau, notamment de l'application de loi. Moi, je pense pour un député, c'est aller au-delà de la simple sensibilisation parce que la mission de sensibiliser est dévolue vraiment à nous comme société civile. Mais pour eux, on a besoin plus d'action dans le sens de suivre vraiment l'application de ces lois-là. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des lois de sensibiliser. Bien sûr, on a besoin de connaître le contenu de ces lois-là. Mais après la sensibilisation, donc, il faut vraiment aller à l'étape de leur application. Et c'est le plus important et c'est ce que nous, on déplore beaucoup plus.
Bien. Honorable Dédé Moupassa, vous avez suivi les propositions de Madame Pascaline, par exemple, dans cette loi sur les personnes des troisième âge. Est-ce que vous avez intégré les aspects, par exemple, ces personnes sont souvent accusées des sorcelleries, il y a des problèmes de répudiation et ainsi que d'autres problèmes spécifiques?
Oui, j'ai tenu compte de tout ça. J'ai tenu compte de tous ces éléments. Et d'ailleurs, pour la sorcellerie, c'était ça même le motif qui m'a beaucoup plus animé de mettre cette loi en place. Parce que j'ai vu des mamans tuées, des papas tués. Ça, c'est tous les deux côtés qui sont accusés. Hein. Si c'est dans la vieillesse, il suffit d'avoir l'âge avancé et qu'on atteint la vieillesse et finit, on devient le sorcier du village, que ce soit homme ou femme. Mais beaucoup plus pour la, je reviens un peu pour la sensibilisation. Quand je dis la sensibilisation, c'est que cette notion de genre doit être consommée. Parce que à chaque fois, la loi, on le fait pas pour les députés, on le fait pour une consommation de la masse. Alors si la masse est sensibilisée, à chaque fois la loi va les atteindre, ça va rendre facile l'application. Donc c'est dans ce sens-là dont j'ai parlé de sensibilisation. Donc, mais en attendant, le député a sa responsabilité de mettre en place une loi. Et c'est comme ça que cette formation nous aide. Qu'à chaque loi que nous mettons, nous devons tenir compte des sensibilités. Par exemple, il y a un article que j'ai mis là dedans aussi, je t'ai dit que ça pourrait revenir à tout moment. Le code de la famille a réglé le problème de sécession. Alors, vous voyez que c'est ce problème qui est réglé, le problème de sécession. Quand ça arrive avant l'âge, avant que vous ayez le troisième âge, il y a une façon de le régler. Mais quand vous atteignez déjà 80 ans et que vous perdez votre mari, celle qui reste, vous voyez le genre de problème qui arrive avec les petits-fils, les fils, les dons changent un peu. Mmh. Alors, on a dû adapter tous ces problèmes de succession pour des personnes de troisième âge. Donc, ça aussi, ça fait un peu de une spécificité avantageuse. À l'égard de personnes de troisième âge pour le problème de succession. Il y a encore d'autres petits éléments, je dis, ça pourrait rester parce que je n'ai pas les textes avec moi, mais d'une manière générale, on a tenu compte, grâce à toute formation et quelques discussions qu'on a eues avec les ONG.
Par exemple, elle a évoqué le cas des personnes de troisième âge, certaines femmes qui sont répudiées par leur mari à cet âge-là.
Oui, ça aussi. Bon, ça, je ne vais pas répudier à cet âge-là, ça reste un droit. On ne peut pas les obliger de ne pas agir de leurs droits là devant la justice. Mais néanmoins, je n'ai pas pris cet aspect de choses-là. On pourra toujours discuter avec, avec elle s'il a des éléments, pourquoi pas. Mais ça, en tout cas, je ne reconnais pas avoir touché cette chose parce que le fait d'être femme ne vous exclut pas de loi générale de la République. Ça, c'est les spécificités qui soient genrées de femmes et qui promouvoient leur position d'être femme. Donc, mais on ne va pas les exclure du droit de l'homme, on ne va pas les exclure du droit pénal, on ne va pas les exclure parce qu'ils sont femmes. Donc voilà, c'est ça.
Alors aujourd'hui, honorable Dédé Moupassa, combien de lois à problème avez-vous répertoriées et comment comptez-vous faire pour apporter des amendements et intégrer les notions du genre?
Oui, à mon avis, je suis en train de travailler sur la loi électorale pour voir quelques aspects qu'on peut améliorer, mais sinon j'ai pas fait l'étanie de toutes les lois pour examiner. C'est un bon exercice, je pense, avec tous les amis, le groupe des 50 qui avons eu la formation. On pourra examiner avec Afia Mama, qui reste encore notre partenaire direct, pour évaluer toutes ces lois-là. Comme moi-même aussi, je suis dans la sous-commission ou la commission évaluation et, des lois. Donc, ça pourra nous aider, et les politiques publiques, ça pourra nous aider à examiner un peu un certain nombre de lois. Et si ça a tenu compte du genre ou pas, et porter quelques améliorations, pas peut-être pour notre législative, mais même pour les jours à venir.
Bien.
Mais quand même, je m'attelle d'abord sur la loi électorale.
Oui. Madame Pascaline, par rapport à la loi électorale, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la réforme de la CENI pour préparer les échéances, les élections de 2023. D'après vous, Madame Pascaline, quels sont les changements qu'on peut apporter à cette loi électorale par rapport à la parité?
Voilà, c'est très stratégique pour nous. Cette loi électorale, les femmes se sont battues et d'ailleurs, pendant une certaine évaluation, les femmes ont considéré qu'elles ont échoué quand même une mission, c'est n'avoir pas pu obtenir des changements au niveau de la loi électorale pour permettre que les partis politiques soient conditionnés, et ça c'est une condition pour les partis politiques, de présenter les listes zébrées ou les listes où il y a 50 femmes ou 50 hommes dans la représentation. Et ça constitue jusque-là un obstacle. C'est la seule voie qui permet, bon, c'est l'une des voies, mais on peut considérer que c'est parmi vraiment les voies stratégiques pour ouvrir la porte de la femme dans la sphère des prises de décision, surtout pour se retrouver au niveau de l'Assemblée nationale, des assemblées, en fait, du Parlement et consorts. Mais si aujourd'hui les femmes doivent se battre elles-mêmes, ben moi je loue le courage de celles qui se sont battues au front les contraintes et qui se sont retrouvées. On a moins de 10% un peu, c'est faible, mais ça prouve que les femmes ont des atouts. Ça prouve que les femmes ne sont pas celles qu'on pense que c'est un manque à gagner de mettre les femmes sur les listes. Aujourd'hui, il y a certains partis politiques pour faire un peu la diplomatie et commence à utiliser les femmes, à dire que nous, on va lisser les femmes, on va mettre des femmes ici ou là. Mais quand il s'agit de les faire dans des choses plus concrètes, c'est là où se posent des problèmes. Et c'est là où nous, on voudrait vraiment, si les chefs de l'État, si toutes les autres institutions veulent réellement donner la place à la femme, la place qu'elle mérite, il faudrait qu'on arrive vraiment à réformer la loi électorale et ressortir cet aspect-là. Que ça soit vraiment une réelle condition pour ce parti politique. Parce qu'on a déjà vu ça à la base, il y a des compétences. La question de dire que les compétences n'existent pas, ça c'est une aberration. Alors, il faudrait vraiment qu'on arrive à cet aspect de changer. Au niveau des organes, aujourd'hui dans l'Assemblée plénière, les organisations de femmes ont la possibilité de recommander une femme. Ça c'est déjà bon. Même pour les autres organes aussi, ils peuvent aussi présenter une femme comme un homme. Mais bon, on considère toujours que comme il y a déjà un quota pour les organisations féminines, ça peut s'arrêter là. Mais bon, c'est des bonnes guerres, mais c'est déjà bon où on sait qu'on peut avoir quelqu'un qui nous représente dans l'Assemblée plénière. Mais aussi au niveau de la tête même de la CENI, pourquoi pas ne pas avoir une femme? Et là, ça demande des hauts plaidoyers, mais aussi une bonne volonté qu'on montre que c'est possible, que ce n'est pas parce qu'il s'agit de confessions religieuses qu'on ne peut pas faire la candidature d'une femme aussi. Et tout ça, ça revient à ce que j'ai dit avant. au niveau le plus haut de nos institutions, quelle est la vision, quelle est la volonté, jusqu'où on peut aller à croire aux compétences, à croire que la femme représente beaucoup d'atouts et on peut vraiment exploiter ces atouts-là positivement pour les biens de la nation. Donc, c'est ce que je peux dire là à propos de la.
Oui. Honorable Dédé Moupassa, Madame Pascaline a dit pourquoi ne pas avoir une femme à la tête de la CENI, pourquoi ne pas y mettre une condition au niveau des partis politiques lorsqu'on élabore les listes des personnes qu'on veut proposer, que ce soit des listes genrées. Honorable Dédé. Oui, allez-y.
J'ai dit pour atteindre les objectifs, il faut se préparer. Vous n'allez pas avoir quelqu'un à la tête de la CENI. La CENI, c'est technique. D'abord, ce sont des éléments techniques. Il faut déjà envoyer des femmes, que les femmes s'intéressent à la chose électorale pour se spécialiser dans le domaine. Et après, quand on réclame, ils peuvent y aller avec compétence et tout ce que vous voulez. Et sur, même sur cette liste-là, vous voyez même le plus. Personne.
Honorable Dédé, il y a des petits soucis par rapport à la liaison téléphonique. Est-ce que vous pouvez peut-être vous déplacer un tout petit peu? Ça peut s'améliorer.
Oui, je disais que là, ça, c'est bon, j'espère.
Là, c'est bon maintenant. Voilà, allez-y.
Oui, oui, je disais que la question électorale, c'est d'abord une question technique. Les femmes doivent s'intéresser à la question, à la chose électorale pour se former et faire mieux. Et à ce moment-là, je disais que même Ronsard, qui est contesté d'une manière ou d'une autre, personne ne conteste son savoir-faire. Et c'est ce qui doit arriver. Quand on parle d'une femme, on conteste sa féminité, mais on ne peut pas contester ce savoir-faire. Donc ça, c'est aussi une branche de problème. Mais d'une manière générale, je me dis que la question de la femme ne peut pas rester une question de faveur. Il faut que ça soit aussi qu'on le mérite. Et le mériter, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi-même, le parti politique est dirigé par une femme. Hein? Et elle le fait très bien. Nous sommes là. Et comme elle est femme à la tête, sur nos listes, il ne va pas favoriser que les femmes. Mais il va rénover aussi quelques compétences en tenant compte de l'intéressement, de l'engagement des femmes qui viennent dans notre parti. Et ça, c'est déjà au primaire que toutes les choses doivent se faire. Il ne faut pas attendre à la fin, à la veille aux élections en 2023, on commence à faire des campagnes, comment on dit, des plaidoiries pour que les femmes soient représentées au départ, pendant qu'au départ, elles ne se sont pas mises dans les jeux. Donc moi, je pense qu'il faut mobiliser, il faut le comprendre, autant qu'on le fait pour les femmes, pour qu'ils se mobilisent, autant qu'on doit aussi faire pour les hommes, pour un mouvement féministe, qui comprennent la valeur que la femme peut apporter.
Voilà. Eh bien, maintenant, revenons à la loi, disons, au code de la famille. Aujourd'hui, quelles sont les avancées déjà enregistrées au niveau du code de la famille et qu'est-ce qui reste à faire pour faire respecter la parité?
Oui, ce qui était primordial, c'était vraiment enlever tout ce qui bloque l'épanouissement de la femme, les autorisations maritales. Ça, c'est une avancée. Ça, c'est de penser. Non, mais ça il faut même pas dérer. Donc je pense qu'avec ça, maintenant, cette liberté, cet engagement peut permettre maintenant à la femme de faire le commerce, d'aller dans la politique, de faire du voyage, d'avoir des engagements dans ce sens-là. Je pense que tout se résume en cela d'abord, avec un certain nombre d'autres articles aussi qui en cela, mais moi je retiens d'abord cette autorisation maritale qui est mise en réserve. C'est déjà un avantage énorme qu'on peut tirer du code de la famille.
Bien. Madame, on va clôturer cette partie. Madame Pascaline Zamunda, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à la promotion des lois et règlements en faveur de la parité en RDC?
Oui, ce que je retiens, c'est qu'il y a une volonté, il y a une réceptivité, c'est ce que je peux dire. Hein. Il y a des luttes à la base que j'attribue vraiment à la société civile et la beaucoup crié et on a compris qu'il y a une certaine réceptivité au niveau des institutions, notamment l'Assemblée, pour adopter des lois et au niveau même des assemblées provinciales avec quelques édits en faveur des femmes. Par contre, il y a un certain immobilisme qui demeure parce qu'il n'y a pas, en termes de nombre et de qualité, d'ailleurs, comme l'honorable l'a dit, il n'y a pas beaucoup d'initiatives. par rapport à ça. Ce que nous, on voudrait, ou moi, par contre, c'était une certaine structuration constante, qui a vraiment cette volonté d'une certaine manière permanente. On sait qu'il y a, aujourd'hui, on sait qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a une commission genre et droits de la femme. Si je ne me trompe pas, j'y ai même participé. J'étais là le jour où on a mis en place les commissions. Mais on voudrait vraiment savoir les travaux de cette commission, qui doit se charger d'évaluer autant les contenus, autant les nombres de lois en faveur de la femme, et évaluer aussi des lois qui ne promeuvent pas les droits de la femme pour pouvoir les corriger. Et c'est de cette manière-là. On ne veut pas que les choses se fassent de façon sporadique parce que ça va être difficile de se situer. C'est un peu comme je dis, on ne sait pas aujourd'hui, c'est 3 femmes qu'on a nommées sur 20 hommes et puis on va applaudir parce que c'est la fille. C'est une femme qui est revenue. Ce n'est pas ça. Mais l'État, c'est l'institution, c'est les choses qui doivent être structurées. C'est l'ordre un peu dans les choses. Et c'est ce qu'on voulait savoir, parce que ça va nous permettre d'évaluer pour dire, voilà où on en est. Où on fait la sensibilisation. On fait tout le travail de la base, de l'éducation au niveau de la société civile. Mais on ne va pas faire le travail, par exemple, des institutions. On ne va pas faire le travail du gouvernement. On ne va pas faire le travail de l'Assemblée nationale, ni de la présidence ou du président de la République lui-même. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a beaucoup d'avancées. Je peux dire qu'il y a une certaine réceptivité par rapport aux revendications de la base. Mais on voulait que c'est ça, c'est stabilise et dans une certaine durabilité, qu'on sente que quand on vient dans les institutions, qu'on soit en mesure de nous dire voilà là où on est parti, voilà où on est arrivé, voilà où on va aller. Mais n'est pas juste attendre que chaque fois les choses soient provoquées au niveau de la société civile, comme si l'affaire des droits des femmes n'était que l'affaire des ONG, comme d'ailleurs on leur a toujours attribué cela.
Bien. Madame Pascaline Zamunda, consultante en genre et en communication pour les changements des comportements et coordonnatrice du cadre des récupérations et d'encadrement pour l'épanouissement intégral des jeunes, nous vous disons merci et excellente journée.
Merci beaucoup,
Jeudi.
Au revoir.
Au revoir. Alors, je reviens à vous, honorable Dédé Moupassa. Vous êtes député national. On retient, on a suivi au cours de cette émission, nous avons suivi au cours de cette émission que les pesanteurs sociaux constituent un frein énorme à l'épanouissement de la femme, à la sensibilité au genre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez parlé de la sensibilisation, mais il y a tellement des coutumes, des us et coutumes ancrées dans nos esprits qui peuvent constituer des freins. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui par rapport à cela?
Oui, je veux me répéter. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est ce dont je dis tout à l'heure, dans la sensibilisation, vous qui êtes de la communication, vous devez bien maîtriser ce dont je parle dans la communication. Dans cette communication, c'est même l'éducation. Il faut enseigner dans les écoles. Hein, le peu de femmes qui viennent déjà dans les écoles, il faut que les hommes comprennent que ce sont de personnes en part entière, ils ont aussi une participation, ils ont ces rapports à donner dans la société. Et aujourd'hui, on peut dire ça va parce que la politique y est déjà, mais il faut qu'on fasse ça dans des programmes d'enseignement, dans la vie d'une manière générale. Parce que c'est quand je dis les consommateurs de la loi, on peut tout faire dans les institutions. Si les consommateurs ne maîtrisent rien, la loi va pourrir comme ça, comme tant d'autres qui traînent dans des tiroirs. Donc, voilà. Donc, ce sont ces efforts-là qu'on doit faire et s'engager vraiment. Et aussi que ces femmes se mobilisent, autant qu'ils se mobilisent, qu'ils soient aussi déterminés à entrer dans les jeux. Qu'on ne reste pas avec les ONG qui pleurent, mais personne ne s'engage dans la vie politique, par exemple. Personne ne s'engage à aller faire des arts martiaux, des gens ne s'engagent pas à participer dans les sports, les gens, ainsi de suite. Il faut qu'il y ait une participation, et cette participation ne peut venir que de la femme elle-même d'abord.
Et l'éducation doit commencer déjà dans les familles.
Exactement. Dans les familles, dans la manière de faire des choses. Donc là, c'est maintenant que le changement, ça va subir beaucoup de contradictions, parce que c'est déjà dans les familles d'une manière générale. Parce qu'ici, quand on parle famille, on voit la conduite de la famille dans des milieux urbains. Mais dans des villages, ça pose des problèmes. Donc, c'est une question d'éducation familiale qui doit aller dans les écoles. Et ça va avoir des répercussions dans les maisons. Parce que l'éducation qu'on a maintenant, là, c'est dans la modernité, dans l'éducation classique qui émane de l'école, qui émane de savoir-vivre autrement que les savoir-vivre traditionnels. Donc, tout ça, ce sont des problèmes. Et c'est dans ces milieux-là qu'il y a beaucoup plus de population. Et c'est là-bas que les problèmes se posent avec beaucoup d'acuité, que dans la ville où il y a la télévision, il y a les ONG qui passent par rapport au problème du genre.
Bien. Alors, pour terminer, est-ce que vous avez d'autres propositions de loi à faire qui intègrent la notion du genre?
Toutes les lois pratiques, toutes les lois, même sur l'entrepreneuriat, il faut qu'on puisse arriver à changer un certain nombre de choses en termes de crédit. C'est pas facile d'accorder des crédits à une dame. Je vois des banques sur place ici qui est en train de pousser l'entrepreneuriat féminin avec quelques avantages qu'ils accordent. Mais il faut que ça soit assis sur des lois ou des règlements qui favorisent l'émergence de la femme dans le milieu d'entrepreneuriat.
Bien. Honorable Dédé Moupassa, député national, merci d'avoir participé à cette émission au Capi Service qui s'intéresse à la promotion des lois et règlements en faveur de la parité. Excellente journée.
Merci à vous.
Au Capi Service.
Au Capi, Radio Capi.
Le conseil du jour.
Trucs et astuces pour bien conserver les fruits et légumes. Thérèse Cancou, nous poursuivons notre série des trucs et astuces pour conserver les aliments les plus longtemps. Après l'avocat, la banane et le beurre des cacahuètes, on découvre aujourd'hui comment conserver l'ail, l'oignon et la pomme de terre. On vous écoute.
Vous venez de vous servir d'une moitié d'oignon et vous ne savez que faire de l'autre moitié. Vous craignez qu'elle s'abîme si vous la mettez simplement au frigo. Pas de panique. Coupez un petit morceau de beurre assez fin. Posez-le sur la partie coupée de l'oignon. Emballez l'oignon dans une feuille de papier aluminium et mettez-le au frigo. Vous pouvez maintenant conserver votre oignon plusieurs jours. Pour conserver aussi plus longtemps l'ail et l'oignon, mettez-les dans des sacs ventilés. Ça les empêchera de pourrir et de germer rapidement. Pour éviter que vos pommes de terre ne germent trop rapidement, il existe une vieille astuce des grands-mères qui marche à tous les coups. Comment faire? Ouvrez les sachets de pommes de terre, déposez une pomme fruit au milieu de votre sac de pommes de terre, mettez-en une ou plusieurs suivant la quantité de pommes de terre à conserver. Vous pouvez maintenant conserver vos pommes de terre sans qu'elles ne germent. Facile, rapide et efficace, n'est-ce pas? La présence de la pomme va ralentir la formation des germes. Vous allez ainsi pouvoir conserver des pommes de terre à l'allure parfaite plus de 8 semaines.
Fidèles auditeurs, c'est par ici que nous mettons un terme à l'émission Au Capi Service sur la promotion des lois et règlements en faveur de la parité. Merci de nous avoir suivis partout. Vous êtes en RDC, même en dehors de nos frontières. Polydor Bansunga était à la mise en onde. Tati Mapuku a assuré la réalisation. Marcel Ngomombalakeba à la coordination. Au micro, aujourd'hui, Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Restez avec nous et excellentes conditions d'écoute des programmes sur Radio Capi. Juste après, restez avec nous.